Il est midi ici à Paris, 13h à Kiev. Bonjour à tous.
Karine Bellicha.
À la une, un échange de prisonniers record a commencé hier entre Moscou et Kiev. Il va se poursuivre ce week-end. Seul domaine où la coopération fonctionne entre les deux camps alors que l'offensive russe continue en Ukraine. Harvard, au cœur de la tempête aux États-Unis, un juge a bloqué pour le moment la décision de l'administration Trump d'interdire à la célèbre université américaine d'accueillir des étudiants étrangers sur le campus. On n'est pas rassuré pour autant. Et puis le caca de manchot, sauveur de l'humanité. Une thèse audacieuse mais corroborée par une étude très sérieuse. Explication scientifique à la fin de ce journal. Aucun cessez-le-feu à l'horizon en Ukraine. L'armée russe poursuit son offensive. Kiev affirme avoir abattu 6 missiles et plus de 200 drones la nuit dernière. L'attaque a surtout visé la capitale ukrainienne, faisant au moins 15 blessés. Seul résultat tangible des négociations à Istanbul, Moscou et Kiev doivent échanger un nombre record de prisonniers d'ici à la fin du week-end. 1000 personnes au total. Hier, 270 militaires et 120 civils ont déjà regagné leur pays respectif. Le récit d'Emmanuel Chaz.
C'est ce qui importe le plus, a dit le président Zelensky de ses libérations de prisonniers de guerre, et ses retours sont très suivis par la population ukrainienne. Des milliers de familles sont directement affectées et attendent le retour d'un proche en captivité. Parmi les 390 personnes libérées côté ukrainien, certains ont été emprisonnés pendant 3 ans. Il s'agit du plus grand échange sur lequel se sont entendus la Russie et l'Ukraine depuis 2014, et si le nombre des personnes libérées est le même de chaque côté, l'état des prisonniers, lui, ne l'est pas. Les prisonniers ukrainiens font état des mauvais traitements et tortures qu'ils ont subis en prison russe. Leurs visages sont émaciés. Souvent, ils n'ont pas pu échanger avec leur famille pendant toute leur captivité. Rares sont ceux qui ont reçu des lettres de leurs proches. Cela va à l'encontre des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. L'Ukraine avait d'ailleurs proposé un échange all for all, tous pour tous, ce que Moscou avait refusé, alors qu'il reste encore au moins 8000 soldats et 16000 civils ukrainiens dans les prisons russes, sans parler des enfants ukrainiens déportés en Russie. Si au moins 20 000 d'entre eux ont été emmenés de force. Selon Kiev, cet échange qui fait suite aux discussions d'Istanbul devrait se poursuivre aujourd'hui et dimanche avec la libération de plus de 600 personnes pour chaque pays. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Pendant ce temps, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, promet que Moscou travaille sur un document résumant ses demandes pour un cessez-le-feu durable. Il sera transmis à l'Ukraine une fois l'échange de prisonniers finalisé. Kiev doit faire de même. L'Ukraine, sujet de tension entre les deux candidats polonais avant le second tour de la présidentielle. Lors d'un débat télévisé hier soir, le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a dénoncé la position jugée pro-russe de son adversaire et son manque d'expérience à l'international. Karol Nawrocki, candidat nationaliste, a lui mis en avant ses bonnes relations avec Donald Trump qu'il a rencontré début mai. Le scrutin s'annonce serré. Il aura lieu le 1er juin prochain. Dans la bande de Gaza, le peu de nourriture qui entre ne suffit pas, loin de là, à couvrir les besoins d'une population bombardée quotidiennement et affamée. Face à la pénurie, 15 camions du Programme alimentaire mondial ont été pillés dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'enclave palestinienne. L'agence de l'ONU exhorte Israël à laisser passer des volumes beaucoup plus importants d'aide pour venir en aide aux civils. Et les frappes de l'État hébreu se poursuivent, déjà au moins 6 morts dans la matinée. La levée des sanctions américaines contre Damas est entrée en vigueur. Le pouvoir syrien s'en félicite. La décision avait été prise par Donald Trump de Riyad lors de son voyage au Moyen-Orient il y a une dizaine de jours. Il avait rencontré Ahmad al-Shara, le nouveau président syrien, qui entend relancer l'économie de son pays, dévastée par plus de 13 ans de guerre civile. Les États-Unis et l'Iran ont de nouveau parlé hier à Rome du dossier du nucléaire. 5e round de pourparlers. Des discussions constructives selon Washington, professionnelles mais compliquées pour Téhéran. Les deux parties ont décidé de se revoir. L'administration américaine exige que l'Iran renonce à son programme d'enrichissement d'uranium. Hong Kong ouvre ses portes aux étudiants étrangers qui renonceraient à aller à Harvard. La ville chinoise promet d'ores et déjà des procédures d'admission simplifiées. L'administration américaine entend retirer l'autorisation d'accueillir des jeunes du monde entier à la prestigieuse université. Un recours de la faculté devant la justice bloque pour le moment cette décision. Sur le campus d'Harvard, c'est un soulagement, mais pour combien de temps ? L'affaire a semé la panique au sein de la communauté étudiante chinoise de Harvard, qui représente 20% des étudiants étrangers, comme le raconte Richard Dong, qui est en master à Harvard.
On a un très gros groupe de discussion sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de réactions. Au départ, ça a été le choc. On ne comprenait pas ce qu'il se passait. C'était hyper déstabilisant, légalement, émotionnellement et pour notre vie pratique. Les étudiants chinois, comme les autres étudiants internationaux, se sont sentis instrumentalisés à des fins politiques pour alimenter le débat sur l'immigration ou bien sur la rivalité sino-américaine avec cette histoire de lien Corée et soi-disant Harvard avec le Parti communiste chinois. Avec mes amis, on s'est dit que ce n'était que de fausses excuses pour cibler Harvard. Donc maintenant que la justice a suspendu la décision de l'administration Trump, on se sent soulagé. Mais ça laisse quand même un goût amer. Le mal est fait psychologiquement. Les étudiants chinois se disent « Bon, on est visé et ça pourrait à nouveau arriver ». N'empêche que ce que la juge a fait est très important. Ça montre que quand les étudiants, quand les universités ou les gens se battent, ça peut faire la différence. Ça prouve que l'état de droit prime sur les jeux politiques. And it's just more important than
like political games. Richard Dong, joint par Carlota Morteo. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se dit préoccupé après une vague de répression au Venezuela. Comme 70 militants, l'un des dirigeants de l'opposition, Juan Pablo Guanipa, a été arrêté. Des interpellations qui interviennent juste avant les élections législatives et régionales demain. Alice Campagnol.
Une arrestation de plus dans le camp opposant. Juan Pablo Guanipa, 61 ans, ancien député. C'est un proche de Maria Corina Machado. Il était à ses côtés la dernière fois qu'elle a été vue en public et comme la dirigeante, il vivait depuis l'élection présidentielle dans la clandestinité. Son arrestation fait du bruit, c'est une figure importante de l'opposition, mais son frère Thomas Guanipa tenait à rappeler hier qu'ils sont nombreux dans sa situation.
La détention arbitraire de Juan Pablo Guanipa.
La détention arbitraire de Juan Pablo Guanipa n'est rien d'autre qu'un nouveau chapitre dans la persécution du régime contre son peuple qui ose penser différemment et rêver de changement. C'est tout le pays qui est persécuté car des milliers de familles ont des proches en prison sans qu'ils n'aient commis aucun délit seulement pour avoir pensé autrement.
Tandis que le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a affirmé que Guanipa faisait partie d'un réseau terroriste, le procureur de la République l'a qualifié de dangereux conspirateur qui chercherait à déstabiliser l'organisation des élections régionales et législatives ce week-end. L'approche de ce scrutin, boycotté par une grande partie de l'opposition, fait de nouveau monter la tension dans le pays, comme l'an dernier lors de la présidentielle, où Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur, malgré les forces soupçons de fraude qui pèsent sur cette élection. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Est-ce que le caca de manchot pourrait sauver l'humanité ? La question paraît quelque peu farfelue et pourtant, ces oiseaux emblématiques du pôle sud contribuent grâce à leurs excréments à la régulation du climat de l'Antarctique alors que celui-ci se réchauffe à vitesse grand V. Les explications très sérieuses d'Elissa Mokadim.
Le guano, ce mélange d'urine et de matière fécale produit par les manchots, est particulièrement riche en ammoniac. Ce gaz, en s'évaporant, favorise la formation de brouillard au-dessus du continent blanc et a un impact sur le réchauffement climatique. Une fois dans l'atmosphère, l'ammoniac interagit avec l'acide sulfurique émis par le phytoplancton présent dans les eaux du pôle sud. Le cocktail forme des aérosols qui favorisent la formation des nuages. D'après les chercheurs, il y a une vraie synergie entre manchots et océans. L'effet n'est pas anecdotique, ces colonies peuvent regrouper des dizaines de milliers d'individus, ce qui fait beaucoup de matière fécale qui reste sur place, même après le départ en migration des oiseaux. Le mécanisme est cependant aussi fascinant que fragile, estiment les auteurs. Les pôles se réchauffent à une vitesse record, bien plus vite que le reste de la planète. C'est une menace directe pour les écosystèmes marins et pour la survie des manchots. Les chercheurs appellent à tirer les leçons de cette découverte et à intégrer ces données pour la protection de la biodiversité.
Encore quelques heures de suspense avant la remise des prix à Cannes, le palmarès du 18e festival du film sera connu ce soir. Le réalisateur iranien dissident Jafar Panahi est l'un des favoris. Les frères Dardenne ont aussi fait forte impression hier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, écho d'ici, écho d'ailleurs.